Bien, vous avez eu les objectifs de l'atelier, donc on est toujours dans le même cadre de travail, c'est-à-dire une méthodologie de formation et toujours une approche réflexive sur la formation. Donc toutes les diapos et le diaporama, vous le retrouverez, vous pourrez le télécharger. Donc il y a des définitions, il y a plein de choses écrites. Vous retrouverez ça pour avoir, n'écrivez pas toutes les définitions, même si des fois ça peut aller un petit peu vite. Donc on va vous présenter, en fait, et je vais vous présenter les caractéristiques générales d'une interaction didactique. Véronique Rivière s'intéressera plus précisément aux consignes. Donc le but de l'analyse des interactions, puisqu'on travaille tous les deux en analyse des interactions didactiques, c'est de mieux connaître le fonctionnement des discours en interaction, et pour ce qui nous concerne des discours didactiques, avec deux aspects importants, la description et la compréhension. On n'est pas dans une observation dans les classes, on est dans un travail d'interprétation à partir des films. D'accord ? C'est-à-dire que on travaille à partir des films de classe. Hein, à partir des traces que l'on analyse sont les films de classe. Bien sûr, on utilise tous les outils de l'analyse conversationnelle, de l'analyse des situations de communication. Et comme il y a eu en FLE et en FOS, il y a effectivement des prolongements didactiques qui sont envisagés. Et là, nous, aujourd'hui, on va envisager des prolongements didactiques pour la formation. À d'autres moments, moi, j'ai pu travailler sur des prolongements didactiques pour la classe. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une... D'abord, plusieurs définitions de l'interaction. D'abord, celle du dictionnaire, on parle du Robert, une action réciproque, donc il y a la notion de réciprocité. Celle de Goffman, donc 1973, qui distingue l'interaction, L', d'une interaction, donc l'interaction comme l'influence réciproque que des participants exercent sur leurs actions respectives, hein, lorsqu'ils sont en présence physique, et puis une interaction lors d'une rencontre. Donc il y a l'interaction de façon générale et une interaction qui est située à une occasion donnée. La définition de Vion, on vous a mis, qui étend la notion d'interaction à différents types de rencontres. Hein. Et puis celle de Magno qui aussi l'étend aux interactions sans présence physique, avec la possibilité d'interaction avec des énonciateurs virtuels, par exemple. Il existe plein de typologies hein, des interactions, des discours en interaction, qui ont été élaborés par l'analyse conversationnelle. Ici, on vous propose celle de Kerbrat Orecchioni, 2005, qui distingue, en fait, comme on le fait à l'écrit avec les notions de genre discursif et de type de discours. Hein, c'est un peu la même dichotomie, genre et type. Donc là, elle propose, elle, de distinguer événement communicatif et activité discursive. Donc l'événement communicatif défini par des critères externes, c'est-à-dire un ensemble discursif plus ou moins institutionnalisé dans une société donnée, comme par exemple la visite, un entretien, une consultation médicale. Donc là, on est sur un événement donné qui se caractérise par un script ou un scénario qui est plus ou moins prévisible, comme avec les genres de l'écrit en fait. Hein. On a un script. Et puis des activités discursives qui relèvent plus des types de discours qui sont eux définis par des critères internes linguistiques, hein. Les formes linguistiques, les catégories utilisées, la narration, l'argumentation, la description, les actes de langage mobilisés, voilà, on est dans cette dimension là juste un exemple, donc la consultation médicale, un exemple d'événement communicatif, donc qui se caractérise par des activités discursives, hein. La consultation médicale se caractérise donc par des activités qui sont organisées suivant un ordre plus ou moins fixe, qui peut être négocié. D'ailleurs, le patient il peut entrer en conversation sans que le médecin ne procède d'abord à un interrogatoire, hein, ou alors que dans un deuxième temps, pour faire compléter le patient. Et bien sûr, chaque activité discursive va appeler une compétence spécifique. Être capable d'interroger pour le médecin, être capable de confier, de prescrire, de saluer, etc. On a à chaque fois une compétence qui est sollicitée. Donc l'interaction didactique pour ce qui nous concerne, alors quelques caractéristiques générales. Alors l'interaction didactique telle qu'on le conçoit, c'est le plus souvent une unité de temps qui est bornée entre l'arrivée en classe et la sortie de classe. En tout cas, c'est tel que moi je l'identifie. Donc l'interaction, elle est asymétrique et contractualisée. On a des différences de statut entre les interactants, entre le rôle, entre l'enseignant et les élèves. On n'a pas les mêmes rôles, donc on a comme ça une asymétrie qui est liée au contrat explicite et implicite, à la dimension sociale de la relation maître-élève, la relation au savoir aussi. le maître détient le savoir, l'élève doit le découvrir. Hein, donc on est vraiment dans une différence là. Je vous ai mis une définition de Brousseau hein, pour la notion de contrat didactique. Donc derrière la notion de contrat didactique, il y a essentiellement de l'implicite. Mais il y a effectivement des choses qui sont totalement explicites. Hein, dans le contrat pédagogique, il y a des choses totalement explicites. Donc on a aussi une asymétrie dans l'interaction qui est liée au... On le voit de façon très flagrante dans tous les films qu'on analyse, dans le volume et le nombre de tours de parole. C'est-à-dire que l'enseignant mobilise généralement, hors certaines interactions. Si on prend un travail en petit groupe où il n'y a pas l'enseignant, bah oui, l'enseignant n'est pas là. Mais en présence de l'enseignant, l'enseignant mobilise généralement le plus grand nombre de tours de parole, le plus grand volume. Moi, dans ce que j'ai pu analyser, c'est 80% hein, sur des cours en face à face avec des élèves, avec des énoncés bien sûr beaucoup plus longs que ceux des élèves. On a une interaction qui est finalisée, donc qui est toujours orientée vers un objectif précis, qui est explicité ou pas, c'est-à-dire qui peut être annoncé ou pas en début de séance, il peut être écrit au tableau, mais à certains moments, dans la tête du prof, ça peut être très précis, mais les élèves ne savent pas où il veut aller. Donc on a toujours comme ça, du côté de l'enseignant, une interaction qui est finalisée, qui va vers un but très précis. Du côté des élèves, les élèves, eux, des fois, perdent le sens de où on va. Hein. De façon générale même, si une interaction didactique, une séance de classe est finalisée, l'ensemble de tous les moments didactiques sont finalisés. C'est-à-dire que à l'école, on poursuit des buts, enfin que ce soit de... les valeurs et les finalités de l'école, comme jusqu'à chaque question que pose le prof. Quand le prof pose des questions, il y a toujours un but derrière. Donc cette dimension-là, elle est présente à tous les moments. Le caractère très ritualisé aussi, qui renvoie à l'ordre du cérémoniel et du sacré. Alors, qu'est-ce que c'est que la notion de rituel dans l'analyse des discours? Ça renvoie à deux traits particuliers. L'un, c'est la répétition, le fait que ça se répète souvent, et l'autre, c'est le caractère sacré, le caractère symbolique. Alors, bon, ça c'est assez discuté parmi les chercheurs. Goffman, donc dans les années 70, lui dit, alors je sais pas si vous connaissez les travaux de Goffman, les rites d'interaction. Lui, il utilise la métaphore de la dramaturgie pour décrire les situations de dialogue, enfin les situations d'interaction. Considérant que les gens qui sont en interaction, les interactants, les personnes qui sont en interaction sont comme s'ils jouaient une scène, et donc il va utiliser cette métaphore là et il introduit la notion de face, et la face, c'est l'image mise en jeu dans l'interaction par les participants. Il définit la notion de face comme la valeur sociale positive qu'une personne revendique effectivement à travers la ligne d'action. Alors, et selon Goffman, c'est parce qu'il y a cette mise en jeu des faces dans les échanges, dans l'interaction, qu'on peut dire qu'on est dans la dimension du sacré. Alors après, il y a d'autres chercheurs qui vont dire non, c'est pas vraiment, on n'est pas vraiment dans le sacré. Dans ce cas-là, plutôt que parler de rituel, il parle de routine. Voilà. Alors, comment ça se manifeste? Cet aspect rituel, en fait, le fait que au niveau pragmatique, par exemple, il y a plein de codes, il y a les levées de doigts, il y a des gestes, il y a des codes au niveau du fonctionnement des échanges, au niveau du cadre participatif. Il y a aussi toute une sorte de liturgie de la classe. Hein. Il y a aussi l'importance qui est donnée au livre, à la parole du maître. On est dans cette dimension-là. Autre caractéristique des interactions didactiques, l'interaction est planifiée. Alors celle-ci, c'est la caractéristique qui est la plus connue des enseignants, puisqu'ils préparent leurs cours. Hein, il y a des fiches de prep. Donc on est sur une préparation a priori de l'interaction, avec un plan. L'interaction, elle est préparée, mais elle est aussi inscrite dans une séquence, dans une unité didactique, dans une progression, dans une programmation. Elle est planifiée dans son déroulement, en activité, en phase, dans son nombre, dans l'ordre, en durée aussi. Et ce qu'on observe généralement, c'est que les phases de clôture, d'ouverture et de clôture sont celles qui sont les plus travaillées, les plus préparées. C'est-à-dire que la phase de passation de la consigne et la phase de trace, d'institutionnalisation du savoir, sont les moments qui sont les plus travaillés, les plus planifiés. Voilà pour donner quelques caractéristiques générales des interactions didactiques. En termes d'organisation, on peut voir que les interactions didactiques, en fait, elles suivent des schémas particuliers. Comme événement didactique, une interaction à une séance de classe, elle est inscrite dans un ensemble, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais sur le plan communicatif aussi, toutes les interactions sont inscrites dans ce qu'on appelle l'histoire interactionnelle, ce que Vion appelle l'histoire interactionnelle, c'est-à-dire la totalité des interactions auxquelles un individu a participé. C'est-à-dire que chaque cours qui a lieu chaque semaine, je veux dire, l'enseignant est avec son groupe, et tous les cours participent à construire une histoire commune. Hein. On est dans une construction d'une histoire commune. Et on trouve quand on analyse les films, on va trouver des traces de cette histoire commune. Le prof, il fait des rappels, il annonce le cours suivant, et l'histoire, elle se construit comme ça dans l'interaction. Ça renvoie aussi, ceux qui connaissent les travaux de Bakhtin, à la notion de dialogisme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est... c'est l'idée que chaque acte de dénonciation... Enfin, qu'il n'y a aucun acte de dénonciation qui est isolé. C'est-à-dire que tout dialogue, tout acte de dénonciation est inscrit dans une discussion à plus grande échelle. Voilà, qui dépasse le cadre même de la situation. On est dans la dimension sociale, en fait, hein, de l'interaction. Là, j'ai regardé je vous ai parlé de l'interaction inscrite dans quelque chose de plus global. Si on regarde maintenant au niveau de son organisation, ce qu'on appelle séquentielle, c'est-à-dire l'interaction vue comme un ensemble de plus petites unités, des subdivisions qui seraient encore autant de moments. Hein, donc, alors, il y a plusieurs modèles d'organisation. Qui existent, hein, qui ont été proposées, mais celle que là je vous présente, c'est celle qui se rapproche le plus, en fait, du découpage didactique des sciences de l'éducation, et celle que propose Robert Bouchard, qui est un chercheur de Lyon 2 ici. Donc lui, il va parler de la séance, donc de l'interaction didactique et donc de la séance comme l'ensemble comme l'unité de base, hein. Et puis ensuite, il va découper en activités, alors qui définit comme des unités consacrées au sein d'une même discipline à des contenus nettement différenciés, les activités. Ensuite, on découpe une activité segmentée et découpée en phases, chaque phase étant programmée avec une durée déterminée à l'avance, par exemple une phase de correction, de mise en commun, et des phases qui peuvent être de nature différente. Ça peut être à l'oral, à l'écrit, collectif, individuel. Alors là, on est purement dans du didactique, hein, et on identifie effectivement dans l'analyse linguistique, enfin dans l'analyse séquentielle, on va distinguer le découpage a priori qui a été planifié par l'enseignant. Après, il va plus loin. On peut découper chaque activité en ce qu'il appelle des épisodes. Par exemple, si on prend le déroulé d'un questionnement-réponse, les questions sont plus ou moins indépendantes les unes des autres, mais on avance comme ça par question-réponse, et donc chaque questionnement va peut-être pouvoir être identifié comme un élément, une unité. Alors quand on passe à ces unités-là, on n'est pas dans l'institutionnalisation du savoir. Hein. On n'est pas dans la phase de conclusion. On est dans une phase de construction. Et puis si on veut aller encore plus loin dans des plus petites unités, Bouchard identifie ce qu'il appelle des étapes qui vont plus désigner des sortes d'unités décrochées ou secondaires. Par exemple, la reformulation pour un élève, ou quand en cours de route, on va faire un point de grammaire. Donc on est plus dans du décroché comme ça. Un exemple de découpage pour que vous compreniez bien. Donc là, je vous ai mis une séance, une interaction didactique complète. Donc là, qui est en fait une plage horaire qui est bornée entre la récréation et le repas de midi. La séance de français observée dure 1h11, exactement. C'est le film, il dure 1h11. Et là, on retrouve en fait les différents éléments de... Alors, moi, je fais une reconstruction a posteriori, d'accord, hein, Mais si j'ai demandé à la prof de me donner sa fiche de prep, on retrouve les éléments de la fiche de prep. Sauf une phase qu'elle avait prévue, qui était l'institutionnalisation du savoir, la trace qu'elle n'a pas faite. Mais effectivement, on va retrouver. Donc là, en vert, vous avez au démarrage et à la fin, vous avez des phases d'introduction et d'ouverture et de clôture de la séance. En rouge, je vous ai mis effectivement ce qu'on appellerait l'activité, hein. En bleu des épisodes, en bleu des phases, voilà, en bleu des phases. Donc la séance, là, elle est organisée avec une activité de lecture-compréhension, ensuite, avec plusieurs phases, un exercice de repérage des verbes du texte, et puis ensuite des exercices de tri. On était en 2005, donc avant 2008, on était dans ce qu'on appelait l'observation réfléchie de la langue, vous vous rappelez, hein, dans les programmes du premier degré, on est revenu à l'enseignement de la grammaire, avant on était dans une pratique réflexive, et donc là l'enseignante elle faisait ce qu'elle appelait de l'observation réfléchie de la langue, et ils avaient même dans cette classe là inscrit à l'emploi du temps ORS au début, ORL, je savais pas ce que c'était au début, et puis c'était vraiment marqué dans l'emploi du temps ORL, observation réfléchie de la langue. Voilà. Ouais, c'est l'heure d'aller. Si on prend donc la phase 3, donc la mise en commun de l'activité d'exercice de repérage, on voit que l'enseignante procède à la correction de l'exercice. Hein. L'organisation qu'on reconstruit ici s'appuie en fait sur le choix de l'enseignante de procéder phrase par phrase dans sa correction. Et en fait, chaque unité qu'on peut observer, elle est liée effectivement à l'action de l'enseignante qui est, on prend chaque phrase du texte et on la corrige. Et donc chaque épisode va être constitué par chaque correction de chaque phrase. Quand on prend la transcription, c'est-à-dire qu'on a écrit toute l'interaction, on parlera de transcription tout à l'heure, le repérage, il est assez facile à faire, du démarrage de ces épisodes, puisqu'on est sur un changement de phrase, et donc on a alors, première phrase, puis plus loin, alors Cassandra va nous faire la deuxième phrase, etc. Si on regarde donc comment se construit cette phase, on va pouvoir observer qu'il y a d'abord la passation de la consigne et réglage matériel, la mobilisation des élèves autour de la tâche, qui sont deux épisodes qu'on identifie, et puis ensuite toutes les corrections phrase par phrase. Donc ça fait apparaître comme ça une organisation en 9 épisodes. Et à 3 moments, je vous les ai mis en rouge, à 3 moments, l'enseignante, elle va s'arrêter. Elle n'est plus sur son phrase par phrase de correction. Elle va s'arrêter dans le feu de l'action pour faire un point de grammaire. D'accord ? Et là, on est dans une étape. Ce que tout à l'heure, on a présenté comme une étape. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'elle avait planifié. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle s'était dit, après la correction de la deuxième phrase, je vais faire un point métalinguistique sur la participe passé. D'accord ? On est là dans ce qu'on appelle l'émergence, des phénomènes émergents dans l'interaction. C'est-à-dire que elle a prévu son organisation de correction phrase par phrase, donc c'est son organisation a priori, mais son organisation, en fait, elle est modifiée comme ça par l'émergence au cours de l'action de propositions d'élèves, donc là. C'est des propositions d'élèves sur des verbes, hein. Il y a un élève qui fait une proposition et puis elle voit qu'il faut qu'elle fasse un point de grammaire à ce moment-là. Voilà. Donc si vous voulez, ce qui est intéressant de comparer, et c'est ce qu'on fait quand on analyse les interactions, c'est de comparer l'organisation telle qu'elle a été planifiée et l'organisation telle qu'elle a été réellement mise en place, hein, telle que elle s'est passée. Donc on est entre ce qui est planifié et ce qui est émergent. Et c'est intéressant de voir les deux, comment s'articulent les deux. Je vous ai mis une définition de Bouchard et Traverso sur ces phénomènes émergents. Alors, cette dimension-là dans la pratique enseignante, dans la pratique de la classe, ça fait référence à ce qu'on appelle aussi la réflexivité. Alors c'est une autre réflexivité que celle dont a parlé Marie-Thérèse ce matin, qui est la réflexivité avec l'enseignant, la réflexion de l'enseignant après avoir fait sa séance de classe. Là on est on appelle ça aussi cette notion là la réflexivité, mais c'est en cours de réalisation. C'est-à-dire qu'un prof, en même temps qu'il fait sa classe, réagit par rapport à ce qui se passe et replanifie, réorganise son déroulement par rapport à ce qui est émergent dans la classe. Ça fait référence à des travaux qui portent, si vous avez peut-être déjà vu ce mot-là dans les formations, la praxéologie, la logique de la pratique. C'est comment l'enseignant il construit sa logique d'action à partir de la pratique, à partir de ce qui se passe. Quand on parle de régulation, en tout cas, dans la régulation, elle porte plus sur du réglage matériel et sur du rappel à l'ordre, par exemple. Mais les étapes, oui. Ce qu'on appelle les étapes, c'est-à-dire ces moments qui sont pas planifiés, ce sont effectivement des séquences latérales. Mais la notion de réflexivité, elle dépasse simplement l'analyse des unités. C'est de se dire, dans la pratique de classe, un enseignant, en fonction de comment se déroule l'interaction, il replanifie son cours. Et alors, ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que avec les activités et les phases, c'est-à-dire ce qu'on met dans la fiche de prep, on est plutôt dans le planifié, hein, et avec les épisodes et les étapes, on est plutôt dans l'émergent. C'est-à-dire que l'enseignant, il construit son questionnement en fonction de ce qui se passe, hein, voilà. Donc plus on avance dans des étapes, dans l'analyse d'unités petites, hein, on va effectivement être dans de l'analyse de phénomènes émergents, hein, de ce qui se passe effectivement dans la classe. Là, je vous ai parlé d'organisation hiérarchique, en unité, etc. On peut s'intéresser aussi, en analyse des interactions, à des phénomènes très localisés. Hein. Bon, je reviens pas sur l'analyse conversationnelle et la notion, on en a parlé avec les actes de parole, ah, mais c'était peut-être dans notre groupe ce matin, les actes de parole, les actes de langage, mais effectivement en analyse conversationnelle on s'est intéressé aux échanges. Il y a tout un travail de définition et de description des conversations qui a été proposé et qui ont amené donc avec les travaux d'Austin, hein, vous connaissez tous ces travaux d'Austin, quand dire c'est faire, l'acte de langage. Qui ont amené effectivement à décrire la langue dans sa dimension pragmatique, ce qu'elle permet de faire, la langue dans ce qu'elle permet de faire. On connaît bien ça en FLE, hein, je veux dire, tous les manuels de FLE sont bâtis sur, dans leur progression, sur une progression en acte langagier. Hein. Donc on peut observer effectivement des phénomènes de ce type-là, hein, dans les interactions didactiques. On peut observer d'autres phénomènes qui sont, donc là je vais vous en présenter trois, qui sont d'un autre type. L'échange ternaire. Alors l'échange ternaire, c'est quoi? C'est, je vous mets un exemple là pendant que je parle, l'échange de base de l'interaction prof-élève. Ça a été identifié comme ça dans les années 70, où on a identifié effectivement que l'échange entre l'enseignant et l'élève, il fonctionnait plutôt sur trois mouvements et pas sur deux, comme dans une conversation, par exemple. Alors, je suis en train de dire que on trouve de l'échange ternaire dans les interactions didactiques. Je parle bien d'organisation locale. Je ne dis pas que toute l'interaction didactique fonctionne sur la modalité d'un échange ternaire. Mais cet échange ternaire, on retrouve quand même massivement dans les interactions didactiques. C'est quoi? Donc, trois temps. Hein. Alors, ça ne nous est pas dit exactement, mais qu'est-ce qu'il va faire Galilée ce jour-là? Oui, il va observer le ciel. Il va observer le ciel pour la première fois avec sa fameuse lunette. Donc on a un fonctionnement comme ça où le prof questionne, enfin sollicite, oui, sollicite par une question. Ensuite, il distribue la parole. Alors parfois, il ne la distribue pas, il y a un cœur d'élève qui se met à dire quelque chose. Et puis, il reprend ce qui a été dit. Hein, donc on a un fonctionnement comme ça en trois temps. Avec le troisième temps qui a valeur d'institutionnalisation. C'est-à-dire que c'est parce que l'enseignant dit... reprend ce qui a été dit, que ce qui a été dit est juste. Hein? Voilà. Donc il y a une évaluation de ce qui est dit par les élèves. Donc c'est ce phénomène-là qu'on qualifie d'échange ternaire. Et on peut effectivement observer certains cours dans lesquels le déroulé de la conversation, enfin de l'interaction, fonctionne comme ça par une succession d'échanges ternaires. Alors là, c'est particulier parce qu'on a le phénomène de levée intonative qui amène, qui invite les élèves à compléter ce que dit l'enseignant, comme le jeu des, enfin comme une devinette un petit peu. Hein. On a d'autres, on peut observer parfois des vraies questions, hein, une question et puis une réponse beaucoup plus longue, sans que ce soit un discours comme ça qui s'articule autant. Hein. Mais là, effectivement, l'enseignante commence une phrase, l'élève finit puis elle poursuit. Quoi. On est vraiment dans une imbrication. Ce qui m'amène justement à l'enchâssement, l'imbrication. Donc un phénomène qu'on observe très massivement, ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est ce phénomène des étapes, de ce qui émerge dans l'interaction et qui va venir être en latéral, en secondaire, parce qu'il faut réguler, parce que plein de choses, mais pas simplement parce qu'il faut réguler ou rappeler à l'ordre, etc. Là, je vous mets un début de cours et je vais vous le lire. Bon, hier, s'il vous plaît, vous sortez vos affaires. Je pense que c'est déjà fait de toute manière. Écoutez, je ne sais pas trop de quel cours vous arrivez là, mais vous me paraissez relativement bien dispersé pour l'instant et pas trop concentré. J'espère que ça va s'arranger. Donc hier, on a commencé une seconde partie dans les mécanismes fondamentaux des climats, hein, à savoir l'atmosphère, la circulation atmosphérique, et nous n'avons guère eu le temps que d'évoquer la composition de l'atmosphère. Alors, vous ferez du découpage et du collage à un autre moment, hein, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de bricoler hier soir. Hein. Vous mettez sur votre cours une deuxième étape, donc qui consiste à évoquer les mouvements que l'on va enregistrer dans la troposphère. Le nom, hein, vous le trouverez sans problème dans le document que je vous ai donné hier. Donc, pour l'instant, la troposphère en mouvement. Vous allez indiquer une première phrase de présentation, mais ensuite je passerai à un croquis. Cette troposphère, c'est-à-dire la plus basse des couches de l'atmosphère, celle dans laquelle nous évoluons tous les jours, sans évidemment la nommer, elle est agitée. Écrivez, vous, de mouvements verticaux et horizontaux. Agitée de mouvements verticaux, l'enseignant écrit au tableau aussi, et horizontaux, au-dessous, vous allez tracer en laissant un petit peu de place, hein, de manière à pouvoir écrire, hein, un trait horizontal qui représentera le sol. Ouais, il vous faut 5-6 carreaux, il vous faut quand même également de la place pour écrire au-dessous. Je vais le mettre plutôt à mi-hauteur, là, le trait au tableau, de manière à ce que ça reste visible pour vous, sinon ceux qui sont au fond, ils verront rien. On a comme ça, dans le déroulé, dans le propos de l'enseignant, un phénomène qu'on appelle d'enchâssement ou d'imbrication de niveau de discours. En noir, effectivement, ça correspond à peu près au déroulé du discours principal qui va être dans lequel on peut dire, comme tu disais tout à l'heure, il va y avoir des séquences latérales, hein, on peut dire, qui vont être qui sont importantes, hein, pour le professeur, mais qui sont pas qui viennent s'imbriquer, s'enchasser dans le discours qu'on pourrait dire plus principal, si on veut utiliser le terme principal et latéral ou principal et secondaire. Ça, c'est un exemple que je prends à Chantal Parpette, et elle dit, quand elle analyse, je reprends la sienne d'analyse, donc on voit dans cet extrait de cours de géographie se succéder et alterner différents actes de parole. Donc une consigne de travail, qui est en même temps une régulation, suivie d'un rappel à l'ordre, un rappel du cours précédent, suivie d'un nouveau rappel à l'ordre, une reprise du cours sous forme de consigne d'écriture, une précision lexicale, etc., etc. Donc le discours comme ça se construit avec plusieurs niveaux, avec une sorte d'une imbrication de différents types d'énoncés qui poursuivent pas tous le même but. Hein. Donc comme alors ça c'est enfin vous me direz c'est évident, bah oui, un prof en classe il a plusieurs fonctions à assurer simultanément. Mais du coup ça se traduit dans son discours avec un discours comme ça qui est enchâssé. Je vous lis cette citation de Chantal Parpette. Donc, ces fonctions multiples font la richesse du discours de l'enseignant, présent sur tous les fronts à la fois, mais lui confère aussi une extraordinaire complexité sur laquelle il convient de s'interroger. Ce n'est pas tant l'existence même de ces différents niveaux de discours qui crée la complexité et la difficulté à les suivre pour les élèves allophones que leur fonctionnement imbriqué. La multiplicité de fonctions induit une constriction complexe par le fait que celle-ci opère généralement de manière simultanée. Alors, l'enseignant expert, donc là je vous ai mis les trois fonctions principales telles qu'elle est décrite. Expert de sa discipline, il apporte des connaissances. Chargé de faire acquérir des connaissances, il met en place des procédures d'aide à l'apprentissage. Et régulateur, il veille au bon déroulement de l'enseignement. Une parenthèse, si j'ai commencé à faire des recherches en analyse des interactions, c'était à un moment donné où on commençait à parler de français de langue secondarisation dans les classes d'accueil et les CLIN, et où les portes d'entrée, c'était partir sur le lexique, c'était partir sur le français de scolarisation, et s'intéresser à au vocabulaire de l'école, aux différents lieux, aux différentes personnes, au langage des consignes, etc., avec une entrée très lexicale. On s'interrogeait aussi et on commençait à parler de langage des disciplines, voir que d'écrire en français, d'écrire en sciences, c'est pas la même chose, etc. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui ne touchait pas que au lexical ? Parce qu'on était toujours dans du lexical. Et une complexité qui ne tiendrait pas... Donc pour intégrer les élèves en classe ordinaire, hein, on parle bien des ENAF là, hein, je parle des ENAF. S'il n'y avait pas derrière... s'il n'y avait pas comme problématique, comme problème dans l'intégration des ENAF, quelque chose qui ne relèverait pas de quelque chose de plus transversal et de moins lié à certaines disciplines, mais qui tiendrait au discours dans la classe, à comment l'interaction se passe. C'était parce qu'on parlait déjà à ce moment-là, j'avais déjà entendu parler de culture scolaire, de culture d'enseignement. On disait, bah oui, les systèmes scolaires sont différents, on n'enseigne pas de la même façon. Donc moi, je me suis dit, bah, faut aller interroger et regarder comment nous, on enseigne. Et ça serait intéressant de travailler à partir de là. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, je la rouvre. Donc, c'est cette si vous voulez, j'ai essayé d'aller voir et d'interroger, est-ce qu'il y aurait, dans les interactions didactiques, est-ce qu'il n'y aurait pas une complexité dans le discours, dans la classe, qui ne serait pas un obstacle à l'intégration des élèves, ou en tout cas, faire l'objet à minima d'un travail avec les élèves ou avec les enseignants, ou je ne sais pas, mais en tout cas, s'interroger là-dessus, quoi. Et ça a été en fait le démarrage de c'est pour ça que j'ai fait de la recherche en fait. Voilà. Dernier phénomène qu'on peut observer qui est intéressant, alors en plus c'est travail sur les pronoms, hein, souvent en classe. Si on observe les discours enseignants et notamment toutes les phases de consignes, Véronique va travailler sur les consignes tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui est intéressant au niveau de l'adressage, au niveau de la façon dont l'enseignant s'adresse aux élèves. Je vous mets un exemple là. Maintenant, on va se pencher sur cette image. Fatma, tu parles trop. On va se pencher un peu sur cette image. Bon, on se calme, Mohamed, hein, d'accord ? Dans l'exemple là, le premier on désigne la classe et le dernier on désigne Mohamed. D'accord ? Si on observe, effectivement, si on fait une analyse des pronoms utilisés par l'enseignant pour désigner... Hein, pour désigner un élève, le groupe d'élèves, un groupe d'élèves, enfin la classe, etc. On va se rendre compte de la multiplicité des possibilités, du nous, du vous, du je, du tu. On a toutes les formes possibles. Et donc dans le travail qu'on fait avec les pronoms, ça m'a interrogé quand je me suis dit, mais dans le travail qu'on fait sur les pronoms en classe d'accueil, c'est intéressant de regarder comment ça se passe de faire ce travail-là justement parce que les élèves en classe sont confrontés à cet usage-là des pronoms par l'enseignant. En guise de transition, je parle des transitions. Quelque chose qui est intéressant à analyser, je m'en suis rendu compte au bout de quelques années de travail et d'analyse, c'est les transitions entre activités ou entre phases ou entre une ces moments où on passe d'une activité à l'autre en fait. C'est intéressant parce qu'on a justement à ces moments-là un discours qui est très enchâssé, qui est avec des qui est lié au changement de modalité d'organisation du travail, et on a dans ces moments-là plein de phénomènes qui sont assez complexes du point de vue de l'interaction. Alors changement de cadre participatif, hein, c'est le changement des façons de s'adresser, de l'adressage, mais ce qu'on peut appeler aussi la recatégorisation des rôles, c'est-à-dire que l'enseignant, par exemple, dans une phase d'exercice individuel, il est là en étayage, en aide, puis tout d'un coup il passe en phase de correction. Il n'est plus là en phase d'étayage ou d'aide, il est en phase d'évaluation. Il change de rôle, là. Hein, il change de rôle. Donc, on a comme ça des changements de rôle qui se jouent dans les changements d'activité qui sont intéressants à observer et qui ont des incidences sur le discours et sur la façon dont se construit l'interaction. Un autre élément qui est intéressant à observer dans ces moments-là, quand on analyse, c'est les différences de temporalité entre l'activité élève, l'activité des élèves et l'activité du professeur. Et c'est là où on voit effectivement des différences de temporalité qui se mettent en place. Avec un élève, par exemple, qui peut avoir déjà fini 5 minutes avant que l'enseignant annonce la fin du travail, alors qu'un autre n'a pas encore fini. Et comment effectivement la transition se fait et le discours de l'enseignant qui amène une nouvelle consigne, une nouvelle phase de travail, etc., qui doit prendre en compte toutes ces temporalités d'élèves différentes et comment ça complexifie effectivement le discours de l'enseignant. Non, là, je vous ai mis un exemple. Cet exemple, il est dans un des films qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc, dans les films qu'on vous donnera à transcrire tout à l'heure, sur lesquels vous allez travailler, il y aura cet exemple. Il est centré sur cette transition-là, où on a une transition longue, en fait. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a soit des si on veut catégoriser, mais il y a des c'est une catégorisation facile. Il y a des transitions courtes et des transitions longues. Transitions courtes sont souvent liées au fait que on passe d'un moment collectif à un moment collectif, l'enseignant capte l'attention de tous les élèves, c'est assez facile. Si on est en phase, là, comme c'est le cas, une phase de correction d'exercice, où on a ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire des temporalités différentes, des rythmes différents, on a une transition qui est beaucoup plus longue dans le passage à l'activité suivante.
Bien, alors d'abord je me présente. Véronique Rivière, donc je suis maître de conférence à l'Université Lyon 2. Dans le cadre de mes activités d'enseignement et de formation, j'interviens essentiellement dans le master, licence L3, mais master 1 et master 2 de didactique du français langue étrangère et seconde. J'interviens un petit peu aussi dans un master d'ingénierie de formation à l'Université Lyon 1 pour la formation des PLP, des conseillers d'éducation, conseillers principaux d'éducation, et j'interviens aussi dans des DU qui forment là plus des intervenants, des formateurs qui interviennent auprès de migrants adultes plutôt. Du point de vue de la recherche, donc j'appartiens au laboratoire ICAR, interaction, corpus, apprentissage, représentation. Et mes spécialités de recherche sont donc l'analyse des discours didactiques de manière générale, discours didactiques en interaction, et puis discours de professionnalisation aussi. Donc, tout ce qui relève des discours tenus par des enseignants dans le cadre des formations ou dans le cadre aussi de projets de recherche parfois. Donc voilà mes deux orientations. Alors, ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, Fabrice nous a donné un petit peu un cadre général ce type de cadre que représente l'interaction didactique. Et donc moi, je souhaitais focaliser sur une activité qui existe, une activité de discours donc, qui existe dans l'interaction didactique, qui est donc les consignes. Alors j'ai mis un observable de l'interaction didactique parce que c'est un petit peu l'idée in fine qu'on avait, Fabrice et moi, pour travailler cet atelier, c'est de dire, bon, voilà, on a les interactions didactiques, on peut essayer de les lire, de les comprendre, de les visionner, mais pourquoi faire dans le cadre de la formation ? Alors voilà, peut-être un observable, puisque l'idée de travailler sur les interactions, c'est aussi d'identifier des observables qui parlent, si je puis dire, aux intervenants, aux enseignants. Donc voilà, c'est un petit peu cette idée-là que j'ai en tête. Quelques idées assez caricaturales sur les consignes généralement. Alors voilà, on cherche toujours la bonne consigne, la consigne claire, la consigne compréhensible. On a souvent, vous corrigerez, mais il me semble assez souvent l'idée en tête que voilà, les consignes, c'est quelque chose qu'on lit. On a tous des consignes dans sa vie quotidienne constamment. Un mode d'emploi, une recette de cuisine, ce sont des consignes, on les lit, mais on les verbalise assez peu. Et l'idée aussi, c'était peut-être de mettre l'accent avec vous aujourd'hui plutôt sur, dans l'interaction, dans l'échange entre des enseignants et des élèves ou entre des élèves, qu'est-ce qu'on fait de la consigne ? Alors, il arrive parfois qu'on parte d'une consigne écrite et qu'elle soit verbalisée. Il peut y avoir d'autres modalités, mais donc c'est l'idée de mettre l'accent sur, c'est un discours aussi propre à la classe qui peut être co-construit et qui ne relève pas seulement voilà, de l'enseignant qui distribue une consigne, mais il y a aussi un effet de co-construction, d'échange, et l'idée c'est justement de regarder qu'est-ce qui se co-construit et comment on peut penser cet échange-là. Alors, je me suis dit, on va prendre un peu de champ et essayer de partir de définition sur ce qu'est un texte procédural. Donc, texte procédural, pas forcément lié à la classe, d'ailleurs. Alors, je suis allée picorer comme ça des définitions du côté de la psycholingue, de l'analyse du travail, de la didactique et de l'analyse du discours. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces définitions ? D'abord, qu'est-ce que serait un texte procédural ? Alors, on a par exemple en rouge, j'ai souligné en rouge, un ensemble organisé d'instructions. Un texte procédural, c'est un objet de communication, c'est un discours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce type de discours, ce genre de discours, a une composante pragmatique plus ou moins forte, hein. Il y a une intention de communication, il y a une intention d'influence sur l'autre, hein, qu'on soit en classe ou ailleurs. Et la prescription est donc la prescription. Alors les consignes, la prescription, hein, moi j'utilise assez souvent ce terme de prescription un peu plus général, parce que la consigne, je l'emploie plus dans un sens vraiment qui concerne beaucoup plus l'objet de savoir. Or, en classe, il y a aussi des injonctions qui ne sont pas forcément liées à l'objet didactique. Donc la prescription, de manière générale, c'est un acte directif, plus ou moins fort, avec une valeur illocutoire d'ordre, mais qui peut se voir selon un continuum de valeurs et de forces. On peut aller de l'ordre jusqu'au conseil. Alors après, on peut se poser la question, mais est-ce que le conseil, du coup, c'est une consigne ? Bon, je ne rentrerai pas dans ces considérations-là, mais la question se pose. Et qu'est-ce que c'est qu'un un texte procédural, un texte de consigne, un texte de prescription ? C'est aussi un discours qui est pris en charge, hein, où il y a un prescripteur, il y a un individu, il y a derrière des prérogatives. De quoi serait fait un texte procédural ? Donc on a ici, en souligné, on a instruction, on a tâche, on a contrainte, on a dire de faire. Voilà, après il faudrait classer ou hiérarchiser peut-être ces éléments-là. Donc l'instruction est beaucoup plus en lien, si on regarde dans le dictionnaire le terme d'instruction, hein, c'est toujours il a de l'instruction, il a du savoir, hein, donc c'est beaucoup plus en lien avec le savoir. La tâche va insister beaucoup plus sur l'aspect procédural, justement, activité de travail éventuellement. Le dire de faire, bon, ben, c'est Adam. Donc Adam, c'est un linguiste du discours, donc il a une visée plus verbo-centrée de la chose. En tout cas, ce qu'on peut voir avec ces définitions, c'est aussi que la consigne, la prescription, c'est un discours qui a un lien très fort avec l'action. Donc on a des opérations, des actions, des buts, des intentions, on a un projet, on a un résultat, on a une tâche. Donc ce que je vais essayer de développer aussi, c'est cette imbrication forte du discours et de l'action. Dernière chose peut-être par rapport à ces définitions, le texte procédural... je vous disais, est guidé par des intentions, mais il est censé produire une transformation. On part d'un état final, d'un état initial, pardon. Si vous prenez la recette de cuisine, vous avez votre titre de recette, un bœuf bourguignon, et c'est l'état initial. Il faut arriver à un état final, effectivement, le bœuf bourguignon qui est en train de mijoter. Et entre ces deux étapes, eh bien, il y a des étapes intermédiaires par lesquelles il faut passer. Et je pense que ça, c'est aussi intéressant d'avoir cette idée-là en tête, même pour la classe. On a un état initial, eh bien, un objet de savoir, les pronoms personnels, par exemple. On va mettre en œuvre un certain nombre d'actions, d'étapes, à travers le discours notamment, à travers l'activité langagière de manière plus générale. Et il faut tenter d'arriver à un état final, qui serait l'appropriation. Alors on ne sait jamais, hein, cet état final, on s'en donne une idée, on peut capter des indices qu'il y a, on arrive effectivement à un état final, mais justement ce qui caractérise la classe, c'est que l'appropriation n'est pas un phénomène facilement observable. Donc, voilà, un dire de faire, un dire de dire, un dire quoi faire, un dire comment faire, il y a tous ces éléments à prendre en compte. Alors, je développerai cette activité de discours en interaction selon trois axes. D'abord, je développerai l'idée que les consignes en interaction, dans l'interaction, mais peut-être plus globalement d'ailleurs, hein, c'est d'abord une activité qui permet de représenter des actions, qui permet de représenter la planification de l'enseignant. Le deuxième point, les consignes peuvent être vues bien sûr comme une activité de communication. Et troisième point, les consignes sont aussi une activité. Alors quand je dis activité, hein, c'est activité langagière qui met en œuvre du discours et du langage de manière plus générale, de la gestuelle, des choses comme ça. Les consignes comme activité aussi de cognition, en tout cas support à la cognition. Donc voilà, activité de représentation, activité de communication, activité de cognition. Alors, commençons par l'idée que les consignes représentent un certain nombre d'actions, les actions de la classe, les actions de l'enseignant aussi. Et les actions de l'enseignant, eh bien, c'est d'abord une activité de discours qui représente d'une certaine manière la planification de l'enseignant. Alors, pour ça, j'ai choisi de vous de focaliser votre attention sur il faut que vous preniez donc la page 4 et 5, de focaliser votre attention sur non pas de l'interaction didactique dans un premier temps, mais un document écrit qui est une fiche de TP de physique d'une classe de seconde. Cette fiche s'appelle donc les différents éléments de la chaîne sonore. Donc vous avez la fiche de TP, du discours, de l'écrit et quelques schémas. Vous avez à côté 3', corpus TP, le discours de l'enseignante qui reprend la fiche de TP. Et on regardera tout à l'heure les pages 6-7 où, donc, en classe de physique, les élèves sont en binôme, ils travaillent sur une paillasse et ils sont censés réaliser une expérience. Ici, ils doivent expérimenter les sources du son. On verra aussi les consignes comme activité de cognition, comment les élèves, dans l'activité de binôme, réutilise, remobilise les consignes. Bon, mais n'anticipons pas trop vite. Et pour l'instant, voyons activité de représentation. Alors, je disais planification de l'enseignant, parce que, donc là, nous regardons la fiche, hein, la fiche de TP. En fait, cette fiche de TP, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle donne une idée de la manière dont l'enseignant, justement, a planifié le savoir qui est l'objet du cours, hein, et comment il a planifié un certain nombre d'actions pour viser l'appropriation de ce savoir. Donc, il y a deux éléments, planifier un faire savoir, planifier un faire faire. Alors, planifier un faire savoir, c'est d'abord définir l'objet de savoir. Dans l'interaction, ce n'est pas oral, hein, ce n'est pas toujours quelque chose qui apparaît de manière très évidente tout de suite, où l'enseignant désigne l'objet de savoir. Hein. Il me semble que ce n'est pas systématique. Ici, avec cette fiche de TP, on a une définition claire et organisée de l'objet de savoir en question, c'est le titre principal et les titres secondaires de la fiche, les différents éléments de la chaîne sonore, les sources du son et leur effet sur la perception auditive. voilà ce que moi je pense être ici l'objet de savoir dont il sera question et que les élèves vont travailler à travers une expérience. Planifier un faire savoir, c'est d'abord définir l'objet de savoir. Ensuite, il y a un ancrage temporel. On nous dit dans l'affiche, chaque fois qu'on entend un son, donc après les trois petits rectangles là, chaque fois qu'on entend un son, on peut préciser la chaîne sonore. On va étudier successivement deux éléments de la chaîne. Certaines activités de ce TP vont, alors ça c'est autre chose, nous n'étudierons la réception que plus tard, mais profitez de cette séance pour continuer à éduquer votre oreille. Donc là, il y a des éléments sur, il y a un rappel aussi, un rappel, on considère que le son se propage d'une source à un récepteur, c'est un rappel. Donc, comme le disait Fabrice tout à l'heure, il y a un ancrage temporel. Il y a un rappel, nous allons étudier ceci aujourd'hui, nous étudierons plus tard cela. Troisième élément de ce faire savoir, c'est l'enseignante énonce des postures conditionnelles à adopter par rapport au savoir. C'est-à-dire, elle dit, donc dans cette fiche écrite, encore une fois, ce TP va nécessiter que vous écoutiez attentivement le son. Donc, elle explicite une certaine posture à adopter par rapport à cet objet de savoir, par rapport à l'activité. Donc, certaines activités vont nécessiter écoute attentive, éducation de l'oreille. Planification de l'enseignant aussi, dans le sens de planifier un faire-faire. Donc là, il y a un faire-faire vis-à-vis des objets. Hein, donc vous voyez qu'il y a... cette planification se lit très bien typographiquement hein, dans la présentation, des gras, du souligné, des points, de l'italique, etc. Donc un faire-faire vis-à-vis des objets. Les objets ici, c'est effectivement diapason, haut-parleur, sifflet, papier à cigarette, instrument à cordes que les étudiants, les élèves ont à leur disposition, enfin qu'ils vont choisir. Hein, ils vont choisir un objet pour mener cette expérimentation. Il y a aussi un faire-faire vis-à-vis du savoir à apprendre. Et on parlait d'état initial, d'état final tout à l'heure. L'état initial, il est donné par l'enseignant. Ce sont les sources du son. L'état final, il est donné par l'enseignant, mais sera réalisé par les élèves. L'état final, c'est la dernière question de l'affiche. Y a-t-il un comportement commun entre toutes ces sources de son ? Donc, et l'état final sera quoi ? La réponse à cette question. Les élèves doivent produire une réponse à cette question. Entre les deux, donc entre les sources du son, qui sont le titre secondaire, le titre 1, et cet état final, qui sera donc une réponse écrite à cette question, eh bien, il y a une organisation de l'activité par une planification, comme je disais, marquée typographiquement en italique et en italique. Par exemple, question pour chaque expérience. Par le marquage aussi de mesures représentées par les différents objets, les ingrédients à manipuler les uns après les autres, et notées sur le plan typographique par le tiré, le caractère gras, qui correspond donc à chaque expérience. Planifier un faire-faire, c'est aussi planifier... un dire de faire, enfin c'est donner un dire de faire ou de dire un dire quoi faire de différentes natures et selon dans cette fiche un ordre hiérarchique. On a une première consigne superordonnante sous le 1.1 au futur périphrastique. Alors ce qui est très étonnant dans cette fiche, c'est que chaque niveau de consigne présente une configuration linguistique différente, quoi. Donc, une consigne superordonnante au futur périphrastique. Hein, vous allez réaliser les expériences suivantes et essayer de trouver une condition nécessaire à l'émission du son, qui donc concerne le résultat à atteindre. Donc, on a une consigne résultat, l'état final. On a des consignes de tâches qui sont, elles, nommées à l'impératif. où là on a un caractère prescriptif un peu plus fort. C'est donc nommer la source du son et expliquer en quelques lignes, éventuellement avec un schéma. On a des consignes procédures qui accompagnent chaque objet. Donc, par exemple, pour le diapason, on frappe le diapason, on l'approche de la boule et toucher, mettre des morceaux pour le haut-parleur, par exemple. Et on a des consignes de guidage qui renvoient lui, enfin qui renvoient elle plus à l'enjeu didactique et qui est nommé, enfin qui est verbalisé sous forme de questions. Quelles sont les différences? Qu'observez-vous? Pour le diapason. Donc sur le plan linguistique, tout ça se démarque. Hein. Consigne résultat au futur préréphrastique, consigne de tâche à l'impératif, consigne de procédure et consigne de guidage. Elle aussi marquée sur le plan typographique et énonciatif. On a des procédures en on et du guidage en vous, par exemple. Hein. Alors. Ensuite, il faut, mais on n'aura peut-être pas trop le temps, regarder ce que fait l'enseignante de cette fiche à l'oral. Alors, vous voyez qu'il y a une très longue prise de parole à l'oral. Hein, c'est donc le tour de parole 90, là, juste à côté. Ce discours oral, alors, on peut considérer, voilà, on a une fiche de TP. Il y a une espèce de partition qui est écrite. Et l'enseignant va en quelque sorte faire une interprétation de cette partition et les élèves vont ensuite jouer cette partition d'une certaine manière. Hein. Donc les consignes oralisées, c'est donc une longue prise de parole. Alors comment elle se présente globalement, alors c'est d'abord une longue prise de parole de l'enseignante qui focalise l'attention des élèves sur cette fiche. Ensuite, il y a quelques questions de réajustement en collectif entre l'enseignante et les élèves. Et ensuite, les élèves travaillent donc en binôme à partir de cette fiche. Donc, globalement, à l'oral, il se passe à peu près la même chose qu'à l'écrit. C'est-à-dire qu'il y a, donc, il y a une consigne, une lecture collective de la fiche, mais pas une lecture complète. C'est une lecture partielle, c'est-à-dire qu'elle focalise sur certains éléments et pas sur d'autres. Donc, elle définit l'objet de savoir aussi. Hein. Elle inscrit le savoir aussi dans une temporalité. Elle donne aussi une posture à adopter vis-à-vis de ce savoir. Alors, la définition de l'objet de savoir, puisque c'était ça les principaux critères que j'avais déterminés, s'appuie sur une double activité de scription, puisqu'elle reprend... On lit la fiche, mais en même temps, elle écrit au tableau et elle demande aux élèves d'écrire. Donc on a une double activité de scription et en même temps une prise en charge orale. Vous notez un titre, petit 1, vous mettez premier point. Donc il y a bien l'idée de retranscription, d'une certaine manière, de la fiche sur le cahier de chaque élève, hein, ou sur la fiche de chaque élève. En passant par l'oral, passant par une verbalisation orale. Elle énonce aussi cette temporalité, hein, nous venons de constater, vous avez trouvé ceci, cela. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à la source du son, le récepteur, on s'en occupera plus tard. Donc, il y a cette même mise en temporalité du savoir. Et ensuite, il y a une légère différence dans le dire comment faire, qui était donc consigne résultat, consigne tâche, consigne procédure, consigne de guidage, là il y a des choses qui changent un peu. C'est surtout l'ordre en fait, hein, c'est surtout l'ordre qui change. Mais ce qui me semble intéressant aussi, c'est ce caractère assez, alors on parlait de rituel tout à l'heure, ce caractère assez organisé de la fiche, hein, on a un point de départ qui est la fiche, qui est, je le disais, alors je vous disais, qui est un indice de la planification de l'enseignant, parce que on a des traces de où veut arriver l'enseignant, mais en même temps, on a aussi avec la verbalisation à l'oral des chemins un peu plus détournés. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Elle lit la consigne résultat, réaliser, observer des expériences. Vous lirez en détail. Il y a une description des désignations. Alors voilà, là on retrouve bien sûr le caractère indexical du discours. Hein. On est maintenant en situation. La fiche de TP, elle aurait pu être donnée dans un endroit, dans un autre, à un moment X, à un moment Y. Donc décontextualisée, alors que le discours va au contraire contextualiser, indexicaliser cette fiche de TP, bien sûr. Hein. Donc, on passe par du discours comme « je vous montre ici l'expérience sur le diapason, une expérience aussi avec le haut-parleur, des expériences avec le papier à cigarette, instrument à cordes ». Donc, elle désigne les éléments, les objets à manipuler. Les consignes procédures sur ces objets sont reprises par des formules elliptiques. Bon, vous ferez ce qu'on vous demande, vous lirez attentivement. C'est là qu'elle ne reprend pas les procédures. Hein. Elle va donc beaucoup plus reprendre ce qui est en lien avec le savoir, hein, les consignes qui ont un enjeu de savoir plus fort. Par contre, les objets à manipuler font l'objet de nouvelles consignes procédures, notamment autour du GBF. Mais on a donc des consignes de manipulation individuelle ou par binôme, des consignes interdiction, vous ne touchez pas à ça, hein. Des consignes d'organisation collective, hein. Vous n'allez pas faire tous en même temps, hein. Vous allez tourner. Donc une focalisation plus sur les objets. Donc je reprends ce dire comment faire là. Lecture de la consigne résultat. Description, désignation des objets. Et troisième chose... manipulation des objets et réalisation la manipulation des objets et la réalisation des expériences doit conduire à la réalisation de la tâche principale. Donc là, on a de nouveau des consignes de tâche nommées et expliquées. Cette consigne n'est pas reprise telle quelle dans le discours, mais fait l'objet de nouvelles consignes, de commentaires, d'espèces de commentaires du type. Il faut vous poser la question dans votre tête, ça m'a fait penser un peu aux commentaires de type métacognitif que développe Violaine dans un de ses articles, aux consignes d'organisation aussi, donc vous choisissez d'organisation du binôme lui-même, des consignes d'échange oral à l'intérieur du binôme, vous discutez ensemble, vous devez décrire, et des consignes d'écriture. Puisque le travail, in fine, c'est bien un travail d'écriture, en fait. Hein. Certes, il faut faire ce travail d'expérimentation du son, etc., mais a posteriori, enfin, c'est mon interprétation, hein, l'activité, le sens de l'activité, c'est d'être capable de rédiger toute cette expérimentation et de rédiger le résultat de l'expérimentation pour les élèves. Hein. Donc là, il y a elle insiste sur ce travail d'écriture individuelle. Vous écrivez une réponse, par une phrase ou deux, vous répondrez. Donc, entre écrit et oral, hein, on a développé un peu ici à Lyon ce qu'on appelle l'oralographie, hein, le caractère oralographique de l'interaction. C'est cette circulation entre l'écrit et l'oral. Et là, on s'aperçoit que en mettant en face à face des consignes écrites et leur reprise à l'oral, en même temps, c'est pas extraordinaire ce que je vais dire, mais parce que c'est propre même au mode oral, on a une espèce de délinéarisation, de démultiplication des actions, hein, des modalités d'action à l'oral. L'oral, on le sait tous, est par définition le mode de l'expansion. Au contraire, l'écrit est plutôt le mode de l'économie. Voilà. Alors, les consignes activités de représentation, on le voit aussi beaucoup. Alors là, peut-être par exemple, une séance d'école primaire. Alors,
du coup, ça, c'est du CM2. Ça a été tourné à Bourg-en-Bresse dans le cadre du projet qui a été fait par les maîtres de Clean, qui cherchaient justement à avoir des films de classe pour travailler avec leurs élèves, leurs ENAF. Et c'est un travail de début de classe, non, de fin de classe, devoir, juste avant la sonnerie. Donc, c'est une classe de CM2.
Ouais. Un truc. Et je vous passe donc cette vidéo.
Je vais vous demander une chose. Pour demain.
On n'entend pas. Hein.
Vous allez ranger cette feuille. Vous allez, dans ce qu'il en restera un, deux, à regarder. Vous allez prendre votre cahier de texte demain. Comme ça sort. Attends. Samedi, pardon. Donc, cahier de texte. Cahier de texte. Oui, oui, c'est la suite. Tout le monde est prêt? Je vais diminuer le travail. Attention, c'est peut-être pas une bonne solution de ranger la feuille qu'on vient de regarder parce que vous aurez à faire des calculs. Parce qu'on n'a pas donné les réponses. On a trouvé la réponse, la question intermédiaire, mais on n'a pas trouvé les réponses. Donc vous allez marquer pour demain. Là, je vendredi, oui.
Bon, c'est peut-être pas la peine de tout passer. Je vais vous enregistrer et quitter. Quitter. Je vous mets juste la transcription, vous l'avez, hein, c'est la première page de l'exemplier. Je cherche mon document, voilà. Donc j'étais en train de vous dire... représentation des actions situées, de ce qu'on est en train de faire dans la classe aussi, de l'enseignant ou des apprenants. Donc, si vous prenez, par exemple, vous faites uniquement du repérage des prédicats, donc des verbes, hein, tout simplement. Voilà, on regarde ça. Alors, voilà ce qui te commence par dire. Alors, je vais vous demander une chose pour demain. Donc, demander, ranger... regardez, prendre votre cahier, je vais dicter le travail. Donc là, l'enseignant met aussi en scène sa propre planification. Alors on peut dire, mais ça, c'est pas un énoncé de consigne. On est globalement dans une étape, une phase de consigne. donc c'est, je trouve ces moments où on planifie, où l'enseignant donc distribue du travail, là en l'occurrence. Il y a une espèce de mise en scène de sa propre activité aussi. Donc vous allez marquer, voilà, il y a énormément d'actions qui sont nommées en très très peu de temps. Et ces actions sont hiérarchisables. Il y a celles que les élèves devront faire chez eux. Il y a l'action principale, si je puis dire. Il y a des actions secondaires, des procédures. Hein. Je parlais de consigne-procédure tout à l'heure. Donc consigne-tâche, consigne-procédure en dessous. Il y a les actions qu'on est en train de faire, comme je vais dicter le travail. C'est peut-être pas une bonne idée de marquer ceci, de marquer cela, etc., etc. Hein. Donc, les moments de consigne sont aussi des moments où on verbalise un tas d'actions. Hein. Ces actions ont une granularité plus ou moins fine, hein, donc consigne résultat, consigne tâche, consigne procédure, et selon un ordre plus ou moins régulier. On a vu que dans la fiche de TP tout à l'heure, l'ordre était absolument régulier à l'écrit, hein, et à l'oral on pouvait retrouver grosso modo aussi une cohérence, un ordre quand même assez régulier. Donc voilà un petit peu sur cette idée de les consignes comme activité de représentation de l'action, hein, de l'action didactique. Donc comme je vous disais, ce lien assez fort entre discours et ah oui, alors j'ai pas fini, je remets peut-être le diaporama parce que il y a aussi dans ce corpus devoir que vous relirez ou que vous lirez à tête reposée, une espèce de partition des actions. Il y a celles qui sont propres à l'enseignant et il y a celles qui sont propres à l'apprenant. Alors la question sous-jacente qu'on doit tous avoir dans la tête, mais et les ENA dans tout ça. On parlait donc de complexité discursive. Je vais complexifier la complexité en disant qu'il y a aussi cette complexité action-discours, quoi. Cette idée de la synchronisation aussi entre l'action et le discours, entre les actions et les discours, cette synchronisation ou cette non-synchronisation d'ailleurs, en tout cas, il est demandé aux élèves d'être relativement synchrone. Alors on parlait de différentes temporalités. Sans doute, l'enseignant peut commencer quelque chose alors que l'élève est en train de, d'être encore sur l'activité précédente, mais à un moment donné, l'enseignant va demander justement qu'il y ait synchronisation. Donc, cette partition des actions, alors moi j'écris, et vous allez lire, hein, bien sûr. Il y a des fonctions diverses et spécifiques. Alors là, je reviens pas parce que Fabrice en a parlé à propos de la polyfonctionnalité des discours. Il y a aussi, dans cette manière dont les consignes donnent à voir l'action didactique, ce mouvement constant et beaucoup dans les moments de transition, effectivement, et dans les moments de consignes, entre de la polyfocalisation et de la monofocalisation. Alors si on revient sur la transcription, on voit bien que l'enseignant est constamment, il est à la fois monofocalisé et à la fois polyfocalisé, dans le sens où il est focalisé avec ses élèves normalement, puisque eux écrivent sur leur cahier de texte, sur cette activité, je vous donne le travail à faire pour demain, mais en même temps, il est aussi très attentif à ce qui se passe par ailleurs. Donc par exemple, attention, c'est peut-être pas une bonne solution de ranger la feuille qu'on vient de regarder. Il réagit là par rapport à un élève qui est en train de ranger une feuille. Ensuite, oui, après C7, C8, Evita, sur une feuille. Attends, il est aussi en train de dire à un élève, attends. Samedi, je les ramasse. Donc, d'être constamment sur d'autres choses que sur l'activité d'écriture, de consigne, de cahier de texte. C'est dans ce sens-là que j'entends polyfocalisation, monofocalisation. Olivia, tu n'es pas obligé de la remettre. Et puis, deux secondes après, bon, ça y est, tout le monde est prêt. Ou là, il redemande cette monofocalisation sur l'activité en cours. Et puis, dans ce travail de ce discours de consigne, on a des entours. Bon, voilà, il y a la consigne, il y a la tâche qui est prescrite, mais des entours métacommunicatifs, métaactionnels, j'en ai déjà parlé. Je vais vous demander une chose. Attendez, je vous explique. Je vais dicter le travail, tous ces énoncés qui, donc, mettent en scène l'activité de l'enseignant. Qui peuvent avoir une fonction d'enrôlement. Bon, là, il faudrait aller chercher de manière plus approfondie, hein, mais en tout cas, je retiens cette mise en discours, cette mise en scène discursive de l'action enseignante. Bon, alors ensuite, activité de communication. Là, je vais développer peut-être uniquement cet aspect interlocution, régulation, intercompréhension. Et peut-être pour ça, vous pouvez regarder l'extrait page 9. 9 et 10 d'ailleurs. Donc là aussi, c'est il y a un manuel qui est la base du travail. Hein. Donc là, on est sur des cours de FLE, hein, de FLE avec des étudiants. Non, pardon, je me trompe. Enfin, oui, pour l'extrait 1, mais non pour l'extrait 2. L'extrait 2, c'est un cours avec des ENA. C'est un cours de rattrapage intégré, voilà, des heures données dans un collège par une jeune enseignante. Elle travaille avec Tempo. Donc c'est des cours qui datent maintenant de, ouais, qui ont 10 ans maintenant. Hein, donc c'est plus tout jeune. alors donc voilà, vous avez la consigne du manuel. Ma ville à vous. Madame Legrand va faire ses courses, reconstituer son itinéraire en vous servant du plan. Donc sur la page de manuel, on a cette consigne, on a une liste de courses et on a à côté un plan qui n'est pas représenté, qui est dessiné. Hein. Donc on voit les magasins dessinés, etc., la petite place du village. Et il faut que les gamins, en fonction des ingrédients de la liste, tracent un itinéraire. Qui permettent d'acheter les ingrédients. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est justement là le caractère co-construit. Hein, en tout cas, le caractère d'échange, où il y a beaucoup de prises de parole des élèves dans le moment où l'enseignant distribue les consignes. Alors, cette interaction, ce qu'on peut déjà en dire, c'est... Il y a une espèce de phénomène de chorus, hein, c'est-à-dire que chacun prend la parole sur l'autre. Hein. Donc là, on est dans cette idée du polylogue didactique. Je crois que tu en as parlé tout à l'heure. Donc cette idée de prise de parole parfois illégale, c'est-à-dire auto-initiée, les apprenants. Alors là, c'est un groupe d'arabophones. Ils sont tous arabophones, tous maghrébins, à une exception près, ou deux. C'est un contexte où les élèves prennent beaucoup la parole en arabe. L'enseignante est arabophone aussi. Y a une prise de parole très, très, très importante, prise de parole auto-initiée, ce qui rend assez complexe la structure et la stabilité des échanges. Mais ça ne menace pas forcément le caractère coopératif de l'activité, de l'interaction. Alors là, on est assez peu dans le schéma ternaire. Vous voyez que tour de parole 8, donc l'enseignante lit la consigne du manuel. Madame Legrand va faire ses courses, reconstituer son itinéraire en vous servant du plan. Ça, c'est la liste de courses de Madame Legrand. C'est ce qu'elle doit faire comme course. Taïeb, tu me diras pas tout à l'heure, madame, j'ai pas compris. Et voilà. Donc après, Malik, acheter un tube, ouais, un pain. Donc ça, c'est la liste de courses. Donc il y a une espèce de contextualisation à la situation. On a encore beaucoup de DX6. Et puis ensuite, de 13 à 22, alors je l'avais souligné, mais ça n'apparaît pas dans la photocopie, on a « C'est quoi aspirine ?» Et voilà que tout le monde part sur le terme d'aspirine. C'est quoi? Alors, Touria, c'est une apprenante particulière qui se fait toujours l'écho, si je puis dire, de l'enseignante, qui va essayer de lever les implicites que l'enseignante n'a pas levés, qui va essayer d'être dans l'assistance assez constamment de l'enseignante. Aspirine, c'est les petits cachets qu'on prend quand on a mal, etc. Donc là, on parlait de séquence latérale, pour moi, c'en est une. Donc ça, c'est la liste de courses qu'elle doit acheter, ça, c'est le plan de la ville. Touria, on va faire des flèches. Donc là encore, elle pose cette question sur quel est le type d'action que vous nous demandez. Est-ce que c'est faire des flèches? Est-ce que c'est écrire? Est-ce que... Voilà. Alors attendez, je reprends mes notes un peu. Donc sollicitation, en fait le faire prescrit peut aussi nécessiter ou être l'occasion de dire supplémentaire, donc par exemple séquence latérale sur aspirine. Il s'agit alors d'énoncer de type métaprocédural consistant à commenter le faire, commenter la tâche. Ah oui, ça, madame, on l'a déjà fait, par exemple. À faire des hypothèses sur le faire. Ça peut être aussi du dire supplémentaire sur la tâche, comme des dires sur le code, c'est le cas ici avec aspirine. Ça peut être des dires supplémentaires qui consistent à solliciter de manière anticipée sur la nature de l'activité. Là, c'est le cas sur les tours de parole 23 à 29, quand elle demande « on va faire des flèches », elle anticipe en quelque sorte l'activité énoncée. Ça peut être aussi des dires supplémentaires qui consistent à solliciter sur une demande de répétition, de reformulation de la consigne. Ça peut être solliciter ou demander des précisions sur les micro-tâches, sur les procédures de réalisation. Madame, est-ce qu'on doit prendre notre crayon rouge, par exemple? Ou pour demander une confirmation. C'est le cas, par exemple, là, ici, en 43-44. Madame, on dit pas, il est au milieu. Voilà, donc c'est là, on est vraiment dans quelque chose de très, 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 très focalisé. Donc là, on est dans des échanges qui participent à l'explicitation, à l'interprétation de la tâche et de l'activité à réaliser et à la précision des attentes de l'enseignant qui sont parfois restées implicites, c'est-à-dire un travail de coordination, un travail d'intercompréhension et autour de l'action didactique à mener, de coaction, moi j'avais énoncé, avant et pendant la réalisation. Bon, pour autant, on voit bien que les élèves... Après, on peut se poser la question, mais comment les élèves sont engagés dans ce type d'activité? Ils sont engagés, à mon sens, de manière assez superficielle. C'est-à-dire que les questions qu'ils posent, c'est est-ce qu'on va faire des flèches? Est-ce qu'on dit il est au milieu, etc., etc. Mais du coup, l'enjeu même de l'activité qui était en fait de réinvestir des expressions de la spatialité, hein, en dessous, au-dessus, à côté, derrière, à droite, à gauche, des choses comme ça. Du coup, l'enjeu didactique là, peut-être est un peu mis à mal, dans le sens où on a, du fait de cette prise de parole, alors moi j'avais parlé d'un état de parole ouvert ou semi-ouvert, c'est-à-dire les élèves prennent la parole un peu comme ils veulent. Ça donne une liberté interactionnelle aux élèves, et en même temps, si on pense ça du point de vue de l'enjeu de savoir, on a parfois l'impression qu'ils sont dans une espèce de simultanéité, ils disent en faisant, hein, c'est-à-dire qu'ils posent leurs questions en même temps, au fur et à mesure qu'ils découvrent l'activité. Donc il n'y a pas ce travail qui me semble assez habituel de, ben, y a une phase où les élèves réfléchissent à ce dont il est question et ce qu'ils vont avoir à faire. Non, hop, les élèves sont tout de suite mis dans l'activité et ils posent les questions. Madame, c'est des flèches, madame ceci, madame cela. Et du coup, il y a une espèce de simultanéité du faire et du dire sur le faire. L'action se fait en même temps que la prise de parole sur l'action. Bon, voilà, je vais aller un peu plus vite. Voilà, ça. Et puis, dernier élément, activité de cognition. Alors là, c'est pareil, il y avait une vidéo, mais c'est pas très éclairant, donc je vais pas la passer. Vous lirez pour ça l'activité du binôme sur l'activité de physique. Donc là, c'est l'idée de dire les consignes, les procédures de la fiche écrite, par exemple, peuvent être un outil cognitif mobilisable à n'importe quel moment dans le cours de la réalisation de l'expérience. Si on regarde justement comment les élèves mobilisent la fiche de TP au moment où ils sont en train de réaliser l'expérience. Très régulièrement, ils retournent à la fiche, ils relisent des énoncés de la fiche de TP. Alors, pour quelle fonction? Donc, il y a différentes fonctions. Il y a une fonction de textualisation de l'observation. C'est-à-dire que la fiche de TP peut se voir aussi, alors à tort ou à raison, là je lance le débat, je ne sais pas en termes d'efficacité didactique ce que ça vaut, mais voilà, ce que j'ai observé c'est ça, c'est que les élèves retournent à la fiche de TP, donc tout en échangeant, hein, dans le binôme, pour parvenir à textualiser ce qu'ils ont observé et ce qu'ils ont verbalisé à l'oral. Donc ils verbalisent à l'oral, on entend le son, alors eux s'appuient sur le, je sais plus sur quoi, le, ils s'appuient sur le diapason, ils travaillent avec le haut-parleur, voilà, ils avaient choisi le haut-parleur, donc il y a une membrane, ils font vibrer la membrane et c'est, voilà, c'est ça la source du son. Et donc voilà, ils font vibrer la membrane, la membrane vibre, donc ils commentent l'action, l'objet, quoi, le phénomène avec l'objet. Ils commentent donc le phénomène qu'ils observent, dans l'interaction. Et puisqu'on leur demande, in fine, un travail écrit, le processus d'écriture et la textualisation de l'observation. Alors, là, il ne faut pas que je vous embrouille, là. La textualisation de l'observation, c'est l'idée de dire, nous faisons des observations tous les deux, avec nos mots, mais nous retournons de temps en temps sur la fiche pour mettre les mots de la fiche sur ce qu'on a observé, en fait. Et donc ça, c'est une première fonction ou une première utilisation de la fiche dans l'interaction en binôme. Deuxième utilisation de la fiche dans l'interaction en binôme, c'est en fait les consignes de la fiche sont des prêtes à écrire, parfois des prêtes à parler aussi. C'est-à-dire qu'ils construisent une réponse, ils écrivent une réponse en se basant sur la consigne. Donc ils reprennent des éléments de la consigne écrite pour construire une réponse écrite. Bon, je ne vais peut-être pas aller plus avant. Je crois que là, moi, ça m'intéresse assez de regarder dans le travail de binôme, très précisément, cette oralographie, quoi, ce travail oralographique et quelle fonction il a. Quoi. Voilà. Donc là, on a fini le travail de... Enfin, on vous a exposé des éléments de recherche, des catégories aussi de recherche, et ce qui nous paraît intéressant... Alors peut-être revenir aux objectifs de l'atelier, du coup. L'idée, c'était... On est des spécialistes du travail sur les interactions, mais comment on peut s'en saisir quand on a une visée de formation? Donc, pour ça, on s'est dit... Bon, voilà, on va leur présenter des éléments de recherche, des catégories d'analyse, puisque... moi, ce que j'aimerais aussi aborder peut-être après, c'est le rôle du film, le rôle des traces aussi. Hein. Parce que, comment on les prend, les traces? Est-ce qu'on les prend pour argent comptant? Comment on se positionne, aussi bien en tant que chercheur qu'en tant que formateur d'ailleurs, comment on se positionne vis-à-vis des traces, donc que ce soit film ou transcription ou autre trace, field notes par exemple? Comment on organise tout ça? Et l'idée, c'était de, à travers cette réflexion-là, de proposer des éléments, une méthodologie, c'est peut-être un peu trop avancé, mais des éléments de ce que serait une méthodologie de formation. Donc voilà, demain, je voudrais, en formation avec mes profs, proposer peut-être des situations de classe, mais des situations de classe par le biais de l'interaction. Par le biais de l'interaction, comment je peux faire? Donc, c'est ça maintenant qu'on va essayer de développer. Ouais.
Ce que je propose par rapport au temps que l'on a, c'est de passer une étape qu'on avait prévue, c'est de vous faire essayer de transcrire. Oui, on fera une pause. Essayer de transcrire, puisque surtout que Véronique a apporté beaucoup de transcriptions. Donc, passe l'étape des transcriptions, mieux. Ouais. Donc, mais ça, c'est quelque chose qui est, par exemple, faisable en formation. Moi, je le fais en formation avec les collègues. C'est-à-dire, on part d'un film et on essaye de transcrire, on essaye de se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire passer de l'oral à l'écrit et comme... Bon, c'est assez intéressant à faire.